Dr. Ted Hildebrandt, OT Histoire, Lit. ET Theology, Conference 19. Copyright 2020, Ted Hildebrandt.
Il s'agit du Dr. Ted Hildebrandt dans son Ancien Testament, Histoire, Littérature et Cours de Théologie. Conférence numéro 19 sur
le livre de Josué, les murs de Jéricho, le problème Haï, et le traité conclu avec les Gabaonites, ainsi que le concept de guerre est ici dans le livre de Josué. Aperçu du quiz et démo de Get Lost in Jerusalem 0.0013.13. Passons à l'ordre. Passons en revue ce sur quoi nous travaillons pour jeudi. J'aurai le guide d'étude prêt demain matin, à la première heure, et je l'enverrai par email à tout le monde. Est-ce que ça va? Ensuite, je le publierai également en ligne. Donc, ce sera en ligne et aussi. Vous devriez l'avoir dans votre email. La lecture pour jeudi prochain est de Samuel qui est en grande partie 24 chapitres. Tout tourne autour de David. Connaissez-vous beaucoup d'histoires de David? Il s'agit de David et Bethsabée. Ce sont les histoires que vous avez probablement grandi. Connaissant David, David et son fils Absalom. Donc 2 Samuel puis un roi. Les chapitres 1 à 11 concernent en grande partie Salomon. Alors, ce que vous lisez pour ce prochain. La semaine est David et Salomon. Ces histoires sont assez bien connues de tout le monde. Le Explorer Jérusalem dans Get Lost in Jerusalem, nous y reviendrons ensuite. D'accord. Alors donne-moi juste une seconde avec ça. Il y a quelques versets à mémoriser du psaume. 51 Il y a 1, 2, 3, 4 versets à mémoriser. Ce sont, créé en moi impur. Cœur, ô Dieu. Ce sont des vers qui sont des chansons que beaucoup d'entre vous ont chantées. Ils sont versets très, très célèbres du psaume 51, qui est le psaume de David reflétant son péché. Avec Birshive. Il y a donc la lecture de 2 Samuel, la lecture de 1 roi 1 à 1. Ces versets à mémoriser, puis perdez-vous à Jérusalem. Ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer Get Lost in Jerusalem maintenant. C'est sur n'importe quelle des machines mises en réseau chez Gordon ici et sur Internet. Par exemple, je allais dans le bâtiment des sciences. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le premier étage de la science? Bâtiment? Si vous entrez du côté Frost et que vous prenez immédiatement à gauche, il y a une pièce là-bas remplie de ces beaux et grands moniteurs et vous pouvez les utiliser. Le seul problème est que vous devez démarrer sous Windows même si depuis 2012, il est sur le Internet et accessible sur les plateformes PC et Mac. Nous utilisons uniquement le meilleur. Machine Translated by Google. 2. Dans cette classe, vous devez donc démarrer sous Windows. Ensuite, vous accédez à tous les programmes. Son. Vous connaissez Windows. Vous montez et vous démarrez Windows et il y a ce petit bouton sur le côté, en bas à gauche. Vous appuyez dessus et vous accédez à tous les programmes. Et vous vous perdez à Jérusalem et vous le remontrez de là. Alors, regardons cela maintenant et je veux y revenir un peu ici. Alors je vais pour appeler ce programme à partir d'ici. Get Lost in Jerusalem en plein écran et en quelque sorte parcourant une partie avec vous. Donc, ici, nous appelons le programme, ce sera pareil. Chose que vous obtiendrez. Lorsque vous voyez ces premières choses ici, vous pouvez cliquer sur le bouton pour cliquez sur tout ça. Je vais donc cliquer sur ce bouton et sauter dans le programme. Maintenant, la première chose que vous devez savoir avec ce programme est de savoir comment activer le musique éteinte. C'est le jour où la musique est morte. Voici comment tuer la musique. Faites ici. Tu vois ce petit bouton de note de musique. Alors tu onces ça et bam, la musique disparaît. Non. Plus de musique. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est parcourir ce programme. Il y a un. Rubrique jeu. En fait, mon fils Zach a écrit la section jeux vidéo quand il avait 16 ans. En. Je lui ai appris à programmer et il a fait les jeux et voilà donc les. Jeux ici. Eh bien, nous allons explorer la Jérusalem virtuelle. Maintenant, laissez-moi vous dire avant de. Lancez-vous. Il y a trois sites que je veux que vous connaissiez. Ce sont les plus importants. L'une d'elles sera ce qu'on appelle la zone G. La zone G est une fouille archéologique. Vous allez voir un tas de rochers et vous devriez savoir ce que signifient ces rochers. Je vais vous montrer comment découvrir ce qu'ils signifient. La zone G sera votre première. Le tunnel d'Ezechia est le deuxième. Je veux que tu passes par Ezechia. Tunnel? Donc le tunnel d'Ezechia. Commencez par le côté et, traversez-le, ressortez par l'autre. Côté puis revenez à travers lui. D'accord. Donc, dans le tunnel d'Ezechia, vous devriez être sur le. À l'extérieur, marchez dedans, traversez-le, sortez de l'autre côté, puis revenez par le tunnel d'Ezechia. L'autre que j'aimerais que vous examiniez est ce qu'on appelle le puits de Warren. Voici le manche de Warren. Ensuite, lisez simplement quelques informations à ce sujet. Le puits de Warren. Le tunnel d'Ezechia et cette zone G, ce sont les trois choses que je veux que vous regardiez. Il vous faudra environ une demi-heure pour parcourir ces panoramas. Machine translated by Google. 3. Laissez-moi, en fait, cherchons cela et ensuite nous irons au puits de Warren. Donc je suis. Va entrer. Maintenant, comment allez-vous dans le programme d'exploration de Jérusalem virtuelle? Il a toutes ces autres choses, mais nous allons simplement explorer la Jérusalem virtuelle. Alors je vais cliquer ici. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a une carte ou une liste de sites. La liste des sites. Nous saurons exactement où nous allons. Je vais donc aller sur la liste des sites. Si vous allez sur la carte, voyons si cela fonctionne. Vous voyez comme c'est une carte de Jérusalem. Avec tous ces points rouges. Si vous passez sur le point rouge, il apparaît et vous montre où. C'est. Si vous cliquez, vous y allez. Maintenant, je ne veux pas y aller, alors je vais y aller. La liste des sites. Voici la liste des sites et ils sont classés par ordre alphabétique. Tu peux voir. Ici, il est dit zone quoi. La zone G est juste là. Sous la zone G, en fait je ne veux pas y aller. Là. Je vais faire Warren Escheft. Mais voyons voir ici, si nous avons celui de Warren. Arbre. Je vais devoir cliquer sur un. Et le voilà juste à l'entrée de. Le puits de Warren. D'accord, il y a une petite flèche, un truc de flèche ici, sur le côté. C'est comme ça que tu. Revenir. Voulez-vous aller au mur des lamentations? Allons au mur des lamentations. Maintenant, les Juifs l'appellent le mur occidental et donc je clique ici, et maintenant nous en sommes là. Mur occidental ou mur des lamentations. Je me retourne un peu et nous y voilà. Peux-tu voir? Ici. Et le mur occidental. Il y a le dôme du rocher près du mur occidental. Alors si tu. Je peux regarder autour de moi pour voir ce qui se passe ici, parce que nous l'oublions en quelque sorte, si vous. Regarde par ici, il est là. La jambe de cette femme est truquée, tout a été photoshopé. Donc de toute façon, ce sont les gens avec qui nous sommes. Voyez les gens baisser les yeux. Maintenant, si vous voulez vraiment descendre voir le mur occidental, voyez-vous cela? Le curseur se transforme en flèche. Cela se transforme en flèche, puis vous cliquez, et maintenant. Nous sommes ici. Je veux me rapprocher, alors je vais chercher une flèche qui se rapproche. Et maintenant nous sommes plus proches, et voici le mur occidental. C'est ce qu'on appelle le mur occidental. Au fait, tu vois, ce sont tous des hommes, et les femmes sont de l'autre côté. Écran. Ils adorent dans des communautés séparées, d'accord. Alors les femmes sont là-bas. Les hommes sont ici, et tu dois porter une kippa sur la tête quand tu y vas. J'aime toujours emmener des femmes ici parce que vous ne verrez jamais ça. Le programme vous montrera quelque chose que les femmes ne pourront pas voir dans la vraie vie. Maintenant, Machine Translated by Google. 4. Je vais me rapprocher du mur occidental. C'est en fait très proche. Tu peux voir qu'ils cachent leurs prières dans les crevasses du rocher. D'ailleurs, vous pouvez envoyer un email d'Amérique et ils le mettront ici. Maintenant, quand ils mettent tes prières dedans. Le mur, ça veut dire qu'ils montent directement, ne passent pas le but, ils montent tout droit et donc c'est rapide. C'est vraiment rapide, ça va directement au paradis. Vous les mettez ici et vous. Je n'aurai qu'à payer $15 ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais me retourner ici. Ce que je veux faire, c'est emmener, il y a ça. Un petit endroit sur le côté gauche ici pour y entrer. Les femmes ne sont pas autorisées à y entrer à tout. La vérité, c'est que je ne savais pas si j'étais autorisée à entrer là-bas. Alors mon fils et moi sommes allés ici et voici à quoi ça ressemble. Je voulais voir ce qu'on appelle l'arche de Wilson. L'arche de Wilson est juste ici. Hérode a construit cela. Vous vous souvenez du roi Hérode avec Jésus? Hérode a reconstruit le temple, cet arc remonte au temple d'Hérode et à Jésus. Hérode? Il ne voulait pas descendre et monter à pied dans la vallée, parce qu'il était trop paresseux. Alors il voulait construire quelque chose juste en face pour ne pas avoir à descendre dans le central. Vallée et plus. L'arc de Wilson a été construit pour que Hérode puisse marcher directement jusqu'au temple. Vous pouvez voir les Juifs ici lire leurs livres, ainsi que les rabbins et divers. Des choses. Vous voyez ce type avec son châle de prière. Voilà à quoi ça ressemble. Et il y a l'arche de Wilson. Il ne s'intègre tout simplement pas, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est mon fils. Je l'ai envoyé ici pour qu'il soit en reconnaissance parce que je n'étais pas sûr d'avoir le droit de le faire. Je prends des photos là-dedans, donc je prends les photos et il est censé garder son les yeux sur ces gars au cas où nous devrions nous enfuir rapidement parce qu'il vous briserait. Appareil photo s'il n'aime pas que vous preniez des photos. Je n'étais pas sûr d'être censé l'être. Là ou pas. Personne ne m'a dérangé. Mais il était sur le côté, gardant un œil dehors pour que je puisse prendre des photos. Alors nous pourrons repartir. Nous y retournerons et nous reviendrons ensuite au mur des lamentations. Vous pouvez voir ici qu'il y a des gars avec leur châle de prière qui arrivent jusqu'au mur. Alors, voyez-vous comment vous déplacez dans le programme. Juste une sorte de rotation et cherchez ces flèches. Au fait, si vous ne savez pas ce que vous regardez, que faites-vous? Alors descendez ici et de l'autre côté là ou juste ici, si vous cliquez dessus. Machine Translated by Google. 5. Icône, voyez-vous ce qu'elle dit? Il donne un texte expliquant le panorama. Alors tu cliques sur ça et tout d'un coup il y a une explication sur le mur occidental, les Juifs ne le font pas. J'aimerais que tu l'appelles le mur des lamentations. Il devrait s'appeler mur occidental car c'est le mur occidental du temple. Maintenant, si vous ne voulez pas lire ceci, alors il y a un bouton ici, où il y a un haut-parleur. Ce sont des sons réels provenant du site. Il vous parlera et vous dira vous ce que vous voyez. Au fait, tu peux toujours aller par ici et tu peux toujours faire des bêtises avec la photo. Voilà donc le mur occidental. Si vous voulez entendre la musique, est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Y a-t-il quelqu'un de juif? C'était l'hymne national juif. Soit dit en passant, si vous souhaitez accéder à un autre site, vous pouvez soit choisir ceux-ci. Flèches et marcher entre les sites ou vous pouvez venir ici. C'est vraiment important, ceci est une liste de sites. Vous revenez en arrière, puis vous cliquez ici, et nous revenons à La liste des sites. Voyez-vous comment cela fonctionne? Vous pouvez donc intervenir où que vous soyez. Vous lisez et regardez simplement l'alphabet ici, et vous pouvez accéder au site ou survoler. Ici et vous pouvez en quelque sorte les voir sur le côté. Ensuite, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez réellement y sauter. Celui-ci est alors disponible sur tous les ordinateurs du réseau et l'Internet. Il suffit donc de descendre sur l'icône Windows qui apparaît, de cliquer sur tout. Programme. Il répertoriera des milliards de programmes en cours et Get Lost in Jerusalem. Ensuite, vous pouvez y aller et l'Explorer et en savoir plus ou vous le faire lire. Passez du temps dans chacun de ces trois sites. C'était les trois sites. Maintenant, c'est perdez-vous dans Jérusalem. Permettez-moi juste de dire que j'avais ce projet que je faisais avec des enfants, des étudiants que je les accompagnerai à travers Jérusalem. Ils suivraient l'arrière de ma tête. Quand ils ont traversé Jérusalem, savaient-ils où ils étaient? Non. Tout ce qu'ils savaient, c'est un peu comme si vous étiez le deuxième éléphant, la vue est toujours la même. Je marche à travers Jérusalem, ces enfants me suivent et ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé cet exercice appelé Get Lost in Jerusalem. Je les promènerai au milieu de Jérusalem et puis je disais, oh, je suis perdu. Je ne sais pas comment obtenir. En dehors d'ici. Je ne vais vous mener nulle part. Vous allez diriger et trouver votre. Je rentrais chez moi parce que nous devions être de retour à l'école pour le déjeuner dans 3 heures. Donc alors. Machine translated by Google. 6. Nous errions essentiellement à Jérusalem pendant 3 heures. Au fait, est-ce qu'ils habituellement finissent par retrouver le chemin du retour? Oui. Et je me demande quand ils menaient. Et ils ont dû prendre les décisions, ont-ils réellement appris Jérusalem à ce moment-là? Oui. Et c'est pourquoi j'appelle le programme Get Lost in Jerusalem à cause de cela. Tu peux. Apprenez réellement votre chemin à travers Jérusalem sur la base de ce programme. Laisse-moi le tuer. Pour le tuer, vous pouvez soit faire le X, soit simplement appuyer sur le S'échapper. Sortons de là et passons à Joshua. Alors perdons-nous à Jérusalem. J'espère que vous aurez du plaisir à jouer avec. Si jamais vous allez à Jérusalem, je pense que c'est très. C'est comme être là. Josué, traversée du Jourdain 13:1-4:1-5-18. La dernière fois, nous parlions du livre de Josué. Josué entrait le pays et traversant le Jourdain. Nous avons parlé du fait que le Jourdain était d'environ 60 pieds de large sur 3 pieds de profondeur en saison normale, mais nous avons dit que c'était dans le printemps. Le Jourdain étant cru au printemps. Nous avons dit que la rivière, probablement effondrée au nord de l'endroit où ils ont traversé, à environ 10 milles, et la Bible même. Dans les chapitres 3, le verset 16 nous dit que la rivière était en fait dotée d'un barrage, jusqu'à Adam. Qui a s'est produit 2 fois d'après ce que nous savons de l'histoire. En 1927 et je pense que c'était en 1200 après J.C. Ils ont enregistré l'effondrement de cette paroi de canyon, endiguant le Jourdain. Nous a dit que c'était un miracle de timing car le canyon s'est effondré exactement au moment où ils sont allés à travers. Maintenant, nous devons parcourir pas mal de matériel pour terminer avec Joshua. Or, lorsqu'ils traversèrent la rivière, Dieu leur fit ramasser 12 pierres. Ces pierres puis sont prises et érigées en mémorial afin qu'ils puissent se souvenir de la présence de ces 12 pierres. Maintenant, pourquoi les 12 pierres sont-elles significatives? Que est-ce que la 12 pierres représente? 12 tribus d'Israël qui entrent dans la terre promise. Mes questions, y avait-il vraiment 12 tribus entrant dans la terre promise ou y avait-il 2 et demi? Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé, déjà installée ici. En Transjordanie. Donc, en réalité, seulement 9,5 des tribus ont pu entrer sur le territoire. Par ici. Les deux autres tribus et demi étaient ici. Alors Joshua dit non, non toi. Les gars ne peuvent pas rester là parce que vous avez déjà votre terre. Vous devez venir nous aider. Machine translated by Google. 7. Combattre les Cananéens. Les deux tribus et demi durent donc se mettre d'accord pour envoyer leur combat. Des soldats sont venus se battre pour la terre. Quand ils traversent, ils se présentent comme quoi? Tout Israël. C'est donc un trait. Moment spécial dans l'histoire d'Israël où tout Israël est réuni. Plus tard, ils vont diviser le nord et le sud. Il va y avoir des tensions tribales plus tard. Mais à ce stade, ils sont tous ensemble et ils partent au combat ensemble. Jusqu'à ce jour, 15:19-19. Maintenant, dans Josué chapitre 4, 9, il est dit ceci, Josué posa les 12 pierres, qui se trouvaient au milieu du Jourdain, à l'endroit où le prêtre qui portait l'arche du pacte était debout. Ils sont là jusqu'à ce jour. J'ai été en Israël et ils sont là jusqu'à ce jour, comme le dit la Bible. Les pierres sont toujours là, entassées. Partout. Il y a des pierres entassées, des centaines, des milliers. D'accord. Quand? Cela dit que ces pierres sont là, jusqu'à ce jour, cela veut-il dire au 21e siècle? Non. Cela signifie, jusqu'à ce jour, c'est accent grave dire quand le livre a été écrit. Les érudits critiques retirent cette déclaration et disent, attendez une minute, que est-ce que c'est? Joshua dit que les événements de l'histoire se sont produits ici avec Joshua, mais pourtant ce livre semble avoir été écrit des centaines et des centaines d'années plus tard. Pour que l'écrivain de le livre dit que les pierres sont toujours là, jusqu'à ce jour, des centaines et des centaines d'années plus tard. Quand vous écrivez l'histoire, voulez-vous que les événements et l'écriture de l'histoire soient proches les uns aux autres? Ou voulez-vous l'événement historique et ensuite des centaines d'années plus tard? L'événement à écrire. Vous le voulez rapprocher. Alors les érudits critiques disent non, non. Ce livre a été écrit des centaines d'années plus tard et les pierres sont toujours là jusqu'à présent. Jour signifie des centaines d'années plus tard. Ensuite, tu as le temps pour que les légendes grandissent et tout. Ces histoires miraculeuses à accumuler. Le seul problème, c'est que c'est écrit des centaines d'années plus tard. Si vous allez à Josué chapitre 6 verset 25, il est dit ceci. Mais Josué épargna Rahab la prostituée, avec sa famille et tous ceux qui lui appartenaient. Parce qu'elle a caché les hommes que Josué avait envoyés comme espions à Jéricho et elle vit parmi les Israélites jusqu'à ce jour. Elle vit encore aujourd'hui parmi les Israélites. Question, est-ce jusqu'à ce jour, des centaines d'années plus tard ou est-ce de son vivant? Quel âge avait Rahab quand les gars sont entrés dans la ville? Elle avait 1 ou 2 ans. Non, c'était une machine translated by Google. 8. Prostituée cananéenne. Donc, ce sera probablement d'ici 50 à 60 ans au maximum, et probablement moins. Elle est encore vivante aujourd'hui. Que dit Josué? Joshua dit, et, toi? Tu veux en savoir plus sur ces histoires? Si vous voulez connaître ces histoires, vous pouvez aller. Demande à Rahab, elle est encore en vie jusqu'à ce jour. Tu peux aller lui demander et elle te parlera. Ces histoires, elle vit toujours. Alors, la valeur historique du livre est-elle confirmée? Oui, à bien des égards. Donc, cette déclaration alors avec les pierres et Rahab est intéressante car Rahab étant là nous dit que cela n'a pas été écrit des centaines d'années plus tard. Il était écrit dans un vie de Rahab la prostituée. Gigal 18, 2022, 18. Maintenant Gigal. quand ils ont traversé le Jourdain et m'ont laissé juste une sorte de carte. Cette sortie. Israël est ici, dans les plaines de Moab. C'est ici. Ils vont venir. Dans la vallée du Rift et ils vont traverser le Jourdain. Quand ils traverser le Jourdain, Jéricho est juste ici, ils vont traverser le Jordan rivé et ils ne vont pas à Jéricho au début. Cependant, ils iront à un endroit appelé Guigal, juste au nord de Jéricho, pour établir son camp. C'est probablement à 1,5 km de Jéricho ou à peu près. Ils vont donc se rendre à Guigal et établir leur campement à un endroit appelé Guigal. À Guigal, trois choses se produisent et ce sont des choses importantes. Tout d'abord, ils célébraient leur troisième Pâque. Ils n'avaient pas célébré la Pâque quand ils l'étaient errant dans le désert pendant 40 ans. Ils ne faisaient pas la fête chaque année, le Pâque. Ils l'ont célébré à leur sortie d'Égypte. Il y avait une autre fois. Et puis maintenant c'est la troisième fois. Mais pourquoi est-ce important que lorsqu'ils traversent le Jourdain, la première chose qu'ils font est de célébrer la Pâque? Que est-ce que cela nous dit? Ils se souviennent du Seigneur. Est-ce que cela nous dit à quelle période de l'année nous sommes? C'est dans le printemps. C'est à notre époque de Pâques. Ils traversent donc à Pâques. D'ailleurs, c'est exactement au moment où la rivière déborde. Il mentionnait le fait que la rivière était en crue pendant la phase d'inondation pendant la Pâque. C'est aussi à ce moment-là qu'ils récoltent leur blé et orge. C'est la croissance printanière du blé et de l'orge. Alors ils traversent, et la troisième Pâque y est célébrée. Cela nous dit donc que c'était au printemps quand il Machine translated by Google.
9. Traverse. Permet as moi de solder la circoncision pendant un minute.
La manne s'est arrêtée une fois qu'ils sont entrés dans la terre promise. Dieu n'en dit pas plus. Manne. La manne était pour le désert. Maintenant, vous allez manger les fruits de la terre. Vous êtes censé manger les récoltes de la terre, la récolte du blé et de l'orge allait. Et les récoltes étaient là. Vous mangez des produits de la terre maintenant, plus rien. Produit spécial du ciel. La manne s'est arrêtée. La troisième était la circoncision. Ils ont erré dans le désert depuis 40 ans et apparemment ils n'avaient pas circoncis leur mâle. C'est un problème. Ainsi Dieu dit, avant de vous lancer dans la bataille contre Jéricho, vous devez circoncire tous les mâles. Question, est-ce un problème? Vous souvenez-vous de quoi? Arrivé à Sichin. Ils vont se battre contre les Cananéens. Voudriez-vous que tout votre peuple soit circoncis juste avant de partir au combat? Non, donc c'est un problème. Néanmoins, Israël l'a fait et il fait parce que Dieu l'avait ordonné. Ils l'ont fait. Et ce que cela les a affaiblis parce qu'ils ont dû être circoncis juste avant. Ils partent au combat. J'ai souvent pensé, maintenant c'est juste une sorte de rite de Brent. Un truc bizarre, mais Dieu les fait circoncire et leur ordonne ensuite de le faire. Promenez-vous dans Jéricho et taisez-vous. Vous voyez ces gars se promener dans Jéricho. Rappelez-vous qu'ils se promènent 7 jours une fois par jour. C'est terrible mais mon cerveau le fait. Va là-bas. Alors rappelez-vous, le 7e jour, ils se promenèrent dans Jéricho combien? Fois. 7 fois en une journée. Vous avez vu Jéricho. Pourrais-tu marcher 7 fois? En un jour? Oui. Tu sais ce que je dis. C'est d'ici à l'âne. Environ. En ce qui concerne la taille. Vous en connaissez la longueur. Pourrais-tu faire le tour de ça 7 fois en un jour? Et puis ils crient, jouent des trompettes, les murs s'effondrent et ils entrent. Et prend la ville. C'est donc ce qui s'est passé à Guigal. Vont-ils en faire un lieu saint? Cite alors. Guilgal est-il un site spécial pour Israël? Oui. Samuel va proposer plus tard. Des sacrifices comme l'est Saul, malheureusement pour Saul. Rappelez-vous que Saül a offert des sacrifices pour. N'aurait pas dû proposer. C'était à Gilgal. C'était spécial, c'était considéré comme un lieu saint. Près de Jéricho. Il y a donc trois choses, à Gilgal, avant de se lancer réellement. Prendre le territoire et attaquer Jéricho. Dieu les met de côté à Gilgal et il. Machine translated by Google. 10. En quelque sorte reprendre leurs repères. Archéologie et Jéricho 22, 1, 7, 2, 8, 32. Maintenant ce qui est arrivé. Les murs de Jéricho s'effondrent. Ils marchent. Cette fois autour de Jéricho, ils crient, les trompettes sonnent et les murs s'effondrent. Dans les années 1930, un archéologue appelé John Garstem est venu sur place et il était un excavateur à Jéricho et y a fouillé pendant de très nombreuses saisons. Il a trouvé les murs du bronze récent. Oui, il a trouvé les murs de Jéricho s'effondrer, tout comme les. La Bible dit. Quand j'ai grandi dans les cours de l'école du dimanche, on citait Garstem, le major. Fouilleur de l'archéologie de Jéricho. Ils nous ont dit, regardez ça, Garstem a trouvé le. Les murs de Jéricho sont tombés, exactement comme le dit la Bible. L'archéologie prouve la Bible. Garstem a constaté que les murs s'effondraient vers l'extérieur. Tout d'un coup, dans les années entre 60 et 70, est apparue une femme nommée Kathleen Kenyon. En fait, il l'appelle Dame Kenyon, elle est britannique, vous savez, ils sont britanniques. Toujours un peu plus intelligent que tout le monde. Alors il l'appelle Dame Kenyon et elle fouillait à Jéricho pendant de très nombreuses saisons. En fait, pendant 20 ans, elle a fouillé. Là, elle est la principale excavatrice de Jéricho. Elle a écrit de nombreux livres déterrés Jéricho, etc. Elle a découvert que ce que Garstem appelait ces murs en bronze tardif qui auraient. À l'époque de Josué, elle a déterminé que ces murs étaient mal datés par Garstem. Et il l'a raté de 800 ans. Donc au lieu que ces murs soient là quand Josué les a traversés, ces murs auraient été du temps d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Elle a donc dit que les murs n'étaient pas datés et qu'à l'époque de Josué, elle a conclu qu'il n'y avait pas de mur autour de Jéricho. Elle a conclu qu'il y avait pas de mur autour de Jéricho à la fin de la période du bronze, mais que les murs qui étaient les dates trouvées provenaient du bronze ancien, qui remonte à l'époque d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors, l'archéologie prouve-t-elle la Bible? Maintenant, l'archéologie fait quoi? Ici, c'est réfute la Bible. L'archéologie prouve-t-elle la Bible ou la réfute-t-elle? Pose la question. Et voilà, il y a un gars nommé Brian Wood et il vient du année 1990. Maintenant, quand tu seras plus actuel comme dans les années 90, est-ce que ça va être mieux? Machine translated by Google. 11. Des informations plutôt que quelque chose des années 60 ou 70. Tout ce qui date des années entre 60 et 70 a. Je dois avoir tort, non. C'est vieux, vraiment vieux. Donc tout ce qui est vieux doit être faux. Demandez simplement à Al Gore. À propos, Kathleen Kenyon est décédée. Quand j'étais à l'université, j'étais dans un programme de génie électronique et nous avons fait tous ces laboratoires. Avez-vous déjà été dans un contexte de laboratoire où vous savez mathématiquement ce que devraient être vos données? Tu sais ce que tu viens de faire dans l'expérience. Et vous savez ce qu'a été votre expérience. Savez-vous ce que c'est du phage? Les facteurs sont ils. Ce sont des choses dans lesquelles nous sommes très bons. Je ne sais pas ce que vous les gars. Appelez-les aujourd'hui. Nous les appelions des facteurs de phage et, en gros, vous êtes allés au laboratoire. Sachant ce que ça devrait être et vous savez ce que vous avez et vous dites, mec, nous avons foiré. En haut. Nous devons faire en sorte que cette chose fonctionne. Et donc ce que tu as fait, c'est que tu as fait ces phages. Facteur et vous avez fait fonctionner votre laboratoire. Notre laboratoire a réussi à chaque fois. Les gens ne le font pas. Conscience, n'est-ce pas? Non, non, c'est du génie électrique, ce n'est pas vraiment de la science. Mais? De toute façon, je suis juste factice ici. Avez-vous déjà collecté des données pour étayer votre théorie? Et ignorez d'autres données qui ne soutiennent pas votre théorie. Il s'avère que Brian Wood. Maintenant que Dame Kenyon est décédée, je suis entré pour examiner ces données et j'ai découvert que lorsque elle a dit qu'il n'y avait pas de mur là-bas et que la date du mur datait de la mauvaise période, elle ne faisait que citer des données qui étayaient sa théorie. Y avait-il toute une série de données? Cela contredisait sa théorie qu'elle avait ignorée. Oui. Il a trouvé ces données et a dit, oh. Regarde ça, elle a juste ignoré ça, la poterie, ce cimetière là-bas où les gens ont été enterrés. Le cimetière à proximité indique quand les gens sont morts et quand cela arrivé. Brian Wood a donc montré que tout cela était en partie faux. Il revient et dit que ce mur a été daté correctement par Garsten, ou à peu près, et qu'il devrait s'agir d'un âge du bronze tardif. Alors, questionnez-vous, l'archéologie prouve-t-elle la Bible, réfute-t-elle la Bible, ou est-ce que ce sont ces des choses débattues? Tous les 10 ou 20 ans, les scientifiques changent-ils d'avis sur ce? Il y a un grand débat à ce sujet. Tout ce que je dis c'est que tu dois être vraiment. Soyez prudent lorsque quelqu'un se lève et dit, l'archéologie prouve la Bible. Tu as faire très attention à cela car je pourrais vous montrer un certain nombre d'endroits où les archéologues disent, non, l'archéologie réfute la Bible. Donc ce que je dis c'est que la machine translated by Google. 12. Les scientifiques travaillent-ils sur des éléments historiques? Disposent-ils de toutes les données? Ils. Je n'ai pas toutes les données. Ont-ils leur propre théorie? Certains archéologues travaillant presque délibérément à réfuter la Bible. Et ce que d'autres se disputent en essayant de prouver la Bible? Alors tout ce que je dis, c'est attention, l'archéologie est un art et une science. Donc, il faut faire attention aux données. Si vous voulez une bonne archéologie, que faites-vous? Vous suivez le cours d'archéologie du Dr Wilson et il vous dira la vérité. Dr Wilson enseigne ici l'archéologie. L'archéologie nous donne-t-elle alors la vérité? Tout ce que je fais, c'est poser des questions. Des marques à côté d'eux alors. Attention à ne pas accorder trop d'importance à l'archéologie. L'archéologie évolue au fil des périodes. Nous obtenons de plus en plus de données. Nous apprenons à interpréter les choses différemment au fil du temps. Ils sont devenus bien plus scientifiques, la datation au carbone 14 est devenue bien plus précise qu'elle ne l'était 20. Il y a des années. Découverte de F. Ebelatlar 28, 3, 3, 3, 3, 56. En voici une qui s'est produite, je crois que c'était dans les années 90. Je pense que c'est vraiment un cool. En Israël, ils ont cet endroit appelé Mont Ebel. Certaines personnes l'appellent le mont Il Chauve, mais je n'aime pas ça. Donc ça s'appelle Ebel. Le mont Ebel et le mont Garizim et ce sont deux montagnes. Les Juifs, lorsqu'ils entrèrent avec Josué, le peuple récitait les malédictions sur le mont Ebel et les bénédictions étaient sur le mont Garizim. Entre le mont Ebel et le mont à Garizim, il y a une vallée et dans cette vallée se trouve Sichin. Est-ce que quelqu'un? Tu te souviens de Sichin? C'est là que la femme au puits a eu lieu dans Jean 4. Quelqu'un se souvient de Jésus et de la femme au puits? C'était à Sichin. Donc entre Mont Ebel et Mont Garizim, il y a cet endroit appelé Sichin où les patriarches allaient. Et où Jésus est allé plus tard. J'étais à Sichin. La dernière fois que j'étais à Sichin, je prenais des photos. Maintenant, Quel est le problème quand je prends des photos? Dois-je prendre des photos en trois dimensions? Ils sont à 360 degrés. Normalement, les gens montent et il y a un monument en pierre là-bas, et ils prennent une photo du monument en pierre. Mais parce que je fais des panoramas, est-ce que je fais des 360? J'ai donc pris des photos de la pierre là-bas, puis j'ai pris des photos des environs. Mais pendant que je prenais des photos autour, je prenais une photo de ces bois par ici et peu. Machine translated by Google. 13. Est-ce que je savais qu'il y avait un groupe de soldats arabes assis dans ces bois et regardant? Je prends des photos. Je viens de les prendre en photo cachées dans les bois. Est-ce que c'est cool? C'est pas cool? Alors d'un coup je finis mes 6 photos avec mon objectif grand angle. Et tout d'un coup, sorti des buissons et des bois sur les côtés, ces 6 gars qui... Des mecs arabes portant des mitrailleuses sortent. C'est un problème? Et alors ils arrivent. Et tu prends des photos. Tu as pris des photos et ils paniquent à cause de mon caméra. Je me dis, j'espère qu'ils ne voleront pas mon appareil photo ou ne le casseront pas, est-ce que tu sais ce que je dis? Je viens jusqu'ici pour prendre des photos. Heureusement pour moi ou mieux, providentiellement pour moi, il y avait un missionnaire d'Amon. Il en avait passé 10 ans à Amman en Jordanie. Il savait parler couramment l'arabe. Mon copain intervient. Le chemin avec ces gars et commence l'arabe, vous connaissez le genre de truc maazalami. Donc il commence à faire son truc et il leur parle. Il lui dit que ça va, ces gars sont juste idiots. Américain. Il prend juste des photos. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je dis que c'est droite. Je lui étais vraiment reconnaissant. Il parlait, en tant que missionnaire, il leur parlait en arabe, je parle couramment l'arabe et saviez-vous que je supposais ce qu'il aurait fait? J'ai arraché le film de l'appareil photo. Retirez le film et faites-le. Je supposais, j'étais. J'espère juste qu'ils ne prendront pas mon appareil photo. Ils n'ont même pas ouvert mon appareil photo. Ils m'ont laissé partir. Il en a parlé. J'ai eu l'appareil photo et nous nous sommes dit retournons à le but tout de suite. Nous en avons assez de Sichin. Maintenant, sur le mont Ebel, c'est dans les années 90, les archéologues sur la montagne où les malédictions étaient lues. Il y avait un hôtel, il y avait là une colline, et les archéologues ont commencé à creuser et quand ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé un immense hôtel. Pas un de ces petits hôtels comme à Beer Sheva, vous connaissez cette hauteur et cette grand. Il s'agit d'un immense hôtel en pierre brute et il y a une rampe qui y monte. Maintenant, que est-ce que ça vous dit? En pierre brute avec une rampe. Les Cananéens font-ils leurs hôtels avec des pierres brutes ou des pierres taillées? C'est une pierre non taillée. Ou le? Les Juifs devraient-ils fabriquer des hôtels avec des pierres brutes? Les Juifs devaient-ils monter les marches jusqu'à leur hôtel? Aucune marche. Ils devaient faire des rampes jusqu'à l'hôtel. Devinez quoi, il y avait une rampe avec pierre non taillée. Question, est-ce un hôtel juif? Ils découvriraient plus tard que cela datait d'avant. À Josué. Ce qu'il suggère, c'est que cet hôtel vient du chapitre 8, verset 30, où il Machine translated by Google. 14. Dit ceci, Josué bâtit sur le mont Ebel un hôtel à l'Éternel, le Dieu d'Israël comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé aux Israélites. Ce qu'il était. Ce qui suggère, c'est qu'ils ont effectivement trouvé l'hôtel que Josué a construit. Maintenant, quelqu'un dit qu'il a trouvé l'hôtel que Josué a construit, montrant que la Bible est historiquement exacte, que se passait-il le lendemain? D'autres archéologues arrivaient attaquer cette chose en disant, oh, c'était une mauvaise date avec la mauvaise période. Ils l'ont raté par 300 ans et donc ce n'est pas l'hôtel de Josué. Nous ne savons pas à qui appartient l'hôtel, mais c'est un grand et vieil hôtel qui klaxonne là au point. Alors, y aura-t-il un débat à ce sujet? Y a-t-il un débat à ce sujet à ce jour? Ils font des allers-retours dans le débat. Donc tout ce que je suis. Ce que je vais faire, c'est dire, maintenant est ce que je pense que c'est l'hôtel de Josué. C'est celui-ci qui, je pense, vient de Joshua, je pense qu'ils ont raison. Mais il y a beaucoup de controverses à ce sujet et c'est ce qui se passe en archéologie. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est vous familiariser avec l'archéologie. L'archéologie prouve-t-elle? Bible? Oui. Mais il faut être très prudent avec ça. Sinon, tu auras de l'archéologie. Réfutez la Bible à certains moments et vous devez régler cela. Tout le monde? Ils ont leur théories et les choses deviennent erronées, il y a toutes sortes de problèmes. Alors tu as? Il faut faire attention. Ils en apprennent davantage sur la culture, l'archéologie est l'un des grandes sciences du monde. Des choses que nous avons apprises sur l'ancien Proche-Orient, mais il faut être très prudent. C'est vraiment beaucoup débattu. Tromperie et alliance des Gabaonites 33, 5, 7, 3, 4, 47. Eh bien, Josué est à Jéricho. Vous pouvez y voir la mer morte, la mer salée et puis juste à côté se trouve Jéricho. Josué fit alliance avec les Gabaonites. Laissez. J'ai appuyé sur le bouton ici pour les Gabaonites, la ville de Gabaon. Vous souvenez-vous du? Les Gabaonites, vêtus de vieux vêtements, apportèrent de la vieille nourriture et dirent, nous avons. Viennent de milliers de kilomètres. Regarde tout ça, ces sandales étaient bien mais. Maintenant ils sont tous usés. Nous voulons faire une alliance avec vous parce que nous avons été entendre parler de ton Dieu. Nous voulons faire une alliance avec vous. Question. Sont-ils de très loin? Non, ils viennent du point mort au milieu d'Israël. Mort. Smekdab, c'est directement du centre d'Israël qu'ils viennent. Les Juifs ne le savaient pas. D'ailleurs, les Juifs n'ont jamais consulté Dieu et ont conclu une alliance avec le Machine Translated by Google.
15. Gabaonites.
Ligue du Sud 34, 4, 8, 3, 5, 26. Maintenant, quand ils font alliance avec les Gabaonites, que se passe-t-il? Jérusalem, Hébron, Léchis, quelques autres villes du sud, cinq villes, rassemblées. Ensemble et ils dirent, nous allons attaquer les Gabaonites parce qu'ils ont fait une alliance avec Israël. Alors ces cinq villes du sud se rassemblent et arriva. Attaque Gabaon. Gabaon crie à Josué. Ils envoient des hommes vers Josué pour lui dire, Josué viens nous aider. Josué va faire marcher ses troupes toute la nuit et c'est où le soleil va s'arrêter. Vous souvenez-vous que c'est ici que ça se passe? C'est le contexte dans lequel le soleil s'arrête, les cinq villes du sud se heurtant à Gabaon, Josué marchant toute la nuit. Il marche dans le désert de Jéricho jusqu'à Micmash 35, 2, 7, 4, 2, 29. Quand j'étais en Israël, j'avais environ 25 ans. Et j'en ai eu deux amis, ils étaient tous les deux Devs, nous nous appelions DDT, Dev, Deveted. Et nous allions nous promener dans le désert. C'est donc un désert ici. Une fois que vous obtenez. Après avoir passé cette route, voyez-vous cette route ici? C'est ce qu'on appelle la route des crêtes. Une fois que vous passez de l'autre côté à l'est de la rige route, tout cela est désert. Maintenant toute l'eau est déposée ici depuis la mer Méditerranée qui se trouve ici. Une fois que vous obtenez au-delà de la crête, c'est le désert. C'est comme la Californie, du côté de la montagne. Il y a de l'eau, mais à l'arrière de la montagne il y a quoi? Désert. Alors le désert est ici et nous marchions habituellement dans le désert de Judée depuis Jérusalem jusqu'à Jéricho. Mais nous avons décidé un jour que n'importe quel mauviette pouvait descendre de Jérusalem jusqu'à Jéricho. tout est en descente sur environ 20 milles. Nous avons donc décidé que nous allions être comme les hommes de Josué. Nous allons commencer à Jéricho, nous allons escalader ces falaises. Nous allons parcourir les 20 milles à travers ici. Nous allons monter à Michmash juste comme les hommes de Josué. Au fait, c'est en montée. Jéricho est à environ 800 pieds sous le niveau de la mer. C'est à environ 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc vous avez fait une montée d'environ 3300 pieds et puis c'est comme si vous grimpiez d'abord à 1800 pieds, puis traversiez le désert. Nous étions donc, comment devrais-je dire ça, j'étais vraiment, vraiment en bonne forme. À cette époque, j'étais un athlète, j'ai joué au basketball à l'université et à d'autres choses comme ça. Mais j'étais au top. Machine translated by Google. 16. Forme. Nous avions l'habitude de marcher dans le désert, nous étions donc tout remplis d'eau. Nous avons commencé notre ascension de cette première série de falaises sortant de cette vallée du Rift. Nous escaladons la première série de falaises. Au fur et à mesure que nous nous livrons, la température commence à monter et elle devient. Il fait de plus en plus chaud et le désert commence à atteindre 110 degrés. Tout d'un coup, nous sommes en marchant à travers ce désert et, d'ailleurs, est-ce que tu marches dans la vallée ou est-ce que tu marches sur la crête? Vous marchez toujours sur la crête. Nous avons fait cela quand nous sommes sortis de Bethléem, quand nous marchions dans la vallée, il y avait un enfant de 12 ans, et c'est la vérité honnête, un enfant arabe de 12 ans est assis en haut, nous étions en bas. Environ 300 pieds dans cette gorge. Il commence à nous lancer des pierres. Donc nous regardons vers le bas. Et boum, boum. Ces rochers alors nous livrons les yeux, ces enfants rient aux éclats, lancent ces rochers, des rochers assez gros pour vous faire tomber la tête. Ils tombent de 300 pieds lorsqu'ils ont touché. Tu devines quoi? Vous avez un problème. Alors voici ce gamin qui rit et trois gros. Les Américains, il nous tient coincés. Il lance des pierres et nous décollons. Courir parce que nous ne pouvions pas le rattraper. Il y a des falaises là-bas et donc nous avons pris. Désactivé. Nous en avons tiré une leçon, on ne marche pas dans les vallées. Vous marchez sur le crête. Alors maintenant, nous marchons sur les crêtes du désert. Quand tu marches, la crête qui signifie que vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez pas simplement sauter sur la route. Tout d'un coup, nous commençons à manquer d'eau. Quand tu commences à manquer de l'eau et il fait 110, 115, 120 degrés tout d'un coup, vous vous déshydratez. Quoi? Ça se passe quand on est déshydraté. Savez-vous que l'un d'entre vous s'est évanoui? Et juste avant de t'évanouir, tu commences à voir des étoiles blanches et tout commence à devenir. Le blanc se rapproche de toi. Tout d'un coup, nous marchons dans le désert et les choses se passent bien. Devenant terriblement blanc et la vision disparaît, se rapproche. Vous levez les yeux et quand vous levez les yeux, vous voyez qu'il y a ces créatures au-dessus avec une envergure de 6 pieds qui tournent en cercle aérien. Il s'avère que vous savez probablement pourquoi il tourne au-dessus de votre tête. Alors vous lève les yeux et tout d'un coup, de mon époque, tu te souviens d'un film que tu as vu. Quand tu étais enfant, tu t'appelais les oiseaux. Est-ce toujours sorti? Ce truc est vieux. Donc je suis voir ces oiseaux. Alors Dave dit, nous devons juste franchir cette montagne 394 et nous marchons. Oui, nous n'avons plus d'eau et ça devient vraiment mauvais. Nous mountains. Montagne 394, nous escaladons cette montagne, nous nous livrons et il dit, si seulement nous. Machine translated by Google. 17. De l'autre côté de la montagne, Michmash sera de l'autre côté et ensuite nous pourrons descendre dans ville et va chercher quelque chose à boire. Nous gravissons donc cette montagne. Nous nous livrons. Au sommet de la montagne et nous franchissons la crête, il parle de mille chaque. C'était terrible. J'étais sur le point de le tuer. Nous montons au sommet de la montagne. Nous franchissons la crête et il n'y a pas de micmash. Il a mal lu la carte. Alors, nous avons failli le tuer. Quand on regarde dehors, c'est une sensation nauséabonde. Avez-vous du respect pour le océan? Ici tu te penches sur l'océan, non sérieusement, tu regardes l'océan. Et vous voyez, c'est énorme. Si je me promenais dans l'océan, je serais un point et ce serait englouti moi. J'avais le même respect pour le désert. Avez-vous déjà été dans un désert? Contexte: lorsque vous regardez dehors et que tout ce que vous pouvez voir n'est qu'un désert à perte de vue. Voir. En tant qu'être humain, vous vous sentez si chétif. Tout d'un coup tu sais que tu es déshydraté et tu sais que tu as des ennuis et il vient de mal lire cette stupide carte. Et puis ça veut dire que tu dois descendre dans la vallée et gravir la montagne suivante et j'espère que le mimash est de l'autre côté. Nous avons descendu la vallée, grimpé le. La montagne suivante a dépassé le sommet. Quand nous sommes arrivés à Mimash et que nous étions rouge betterave, tous les gens du Mikmash a demandé, d'où venez-vous? Nous venons de Jéricho. Oh! Toi! Ne traversez pas le désert dans des jours comme celui-ci. Il fait chaud aujourd'hui. Oui, nous savons qu'il fait chaud. Jéricho. Vous savez, personne ne vient de Jéricho. Vous ne faites tout simplement pas ça. Le mec nous invite dans son magasin et il dit, tout ce que vous voulez boire mes amis, tout ce que vous voulez boire. Tu veux boire, gratuitement, c'est pour moi. Alors nous avons pensé que c'était génial, je n'ai jamais eu de. Les Arabes font quelque chose de gratuit comme ça. Il faut toujours troquer. Ce type a dit gratuit. Nous sommes comme des héros de la ville. Tous ces gens sont venus et ils sont comme ces Américains. Tu sais que nous sortons dans le désert. Ils ne te le disent pas alors tu commences à boire ça. Truc. Votre cerveau est principalement constitué d'eau. D'accord. Certains diront peut-être de l'air, mais principalement de l'eau. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes déshydraté, votre cerveau rétrécit. Parce qu'il y a beaucoup d'eau là-haut. C'est pour cela que vous avez beaucoup de mal à voir. En fait, votre cerveau s'effondre et quand il sort de la cavité de votre tête. Machine translated by Google. 18. Vous obtenez le pire. Je n'ai pas de migraine. Je ne l'ai jamais fait, mais tu as un mal de tête si fort qu'il vous fait presque perdre pied. Ça fait si mal et toi? Je ne peux pas voir. C'est juste parce que ton cerveau s'est effondré, la cavité de ton cerveau est toujours dehors. Là, ton cerveau panique. Alors tu commences à boire ce soda, n'est-ce pas? Ils ne te disent pas ça à chaque fois. Tu bois ce truc, ton corps s'effondre, tu es déshydraté et il ne peut pas accepter le de l'eau parce que tu bois trop. Alors tout ce qui se passe, devinez quoi? Cela revient. Maintenant, c'est vraiment, je dirais, le pire sentiment, parce que tu es mourir parce que tu as besoin de boire. Tout ce que vous déposez revient. Lorsque vous avez des le cœur et que vous vous demandez, que est-ce qui se passe ici, je viens de. J'ai besoin de quelque chose à boire mais je ne peux rien retenir. Alors en attendant, nous avons eu un cadeau gratuit. Roulez, nous étions les héros de la ville, c'était terrible. Mais de toute façon, on rentre à la maison et on finir par faire du lait tiède sur une cuillère. Une cuillère et à la fois, il faut se réhydrater. Lentement. Certains d'entre vous en savent probablement plus que moi à ce sujet. Nous ne savions pas ce que nous faisions, tout ce que nous savions, c'est qu'aucun de nous ne pouvait rien faire pour rester à terre. Donc, vous deviez le prendre très, très lentement pour que votre corps ne se renverse pas. Donc c'est mon expérience avec le désert. J Soleil Immobile à Gabaon 42, 3044, 32. Maintenant, vous dites, pourquoi, Hildebrandt, racontez-vous toutes ces histoires stupides? Eh bien, je veux que tu penses aux hommes de Josué. Ils voyagent depuis Jéricho jusqu'à Gabaon, qui est à environ 10 000 supplémentaires d'ici. Toute la nuit, ils marchent. Vous avez déjà fait un hall? La nuit, marcher 30 à 40 000 en montée, environ 3 300 pieds de différence sur 20 000 et votre. Marcher toute la nuit. Question, êtes-vous prêt à vous battre le lendemain? Nous parlons main. Combattre au corps à corps le lendemain. Vous n'avez ni Red Bull ni Monster à boire. Question, allez-vous être prêt à vous battre? Josué prie alors pourquoi? Josué alors. Pris pendant qu'ils se battent ici, Joshua dit, « Seigneur, nous devons battre ces gars. Donnez-nous une autre période de 24 heures par jour. L'un d'entre vous a il effectué deux périodes de 24 heures comme que. Maintenant, je veux vous poser des questions sur le soleil qui reste immobile. C'est là que nous allons. » Il marche toute la nuit, puis Josué demande 24 heures supplémentaires. Est-ce que cela semble? Cela a du sens ou est-ce que cela soulève plus de questions? Machine translated by Google. 19. Existe-t-il d'autres façons d'envisager l'allongement des journées de 24 heures? Je dis. Je ne suis pas sûr que cela corresponde au contexte. Si j'étais Joshua, je demanderais une journée plus courte. Parce que nous venons de marcher 30 000. D'ailleurs, si tu marches la nuit dans le désert, quel est le problème? Est-ce que tu sors dans le désert la nuit comme ça? La réponse est non. On vous dit, d'ailleurs vous apprenez très vite, est-ce que vous écoutez les traditions? Quand on te dit, tu ne marches pas dans la vallée, tu marches dans la vallée. Bien nous avons ignoré cela et nous avons failli nous faire tomber la tête. Ils nous ont dit que tu n'y allais pas la nuit parce que ce qui se passe la nuit, on ne peut pas bien le juger et les gens ont est descendu des falaises. Et le lendemain, ils les retrouvent morts dans ces canyons. Tu ne marches pas la nuit. Au fait, nos troupes combattent-elles délibérément la nuit? Nos troupes combattent la nuit. Parce que nous avons l'avantage la nuit grâce à ces lunettes de nuit. Je sais Mon fils était en Afghanistan et en Irak, il sortait la nuit. Patrouiller car nous avons l'avantage la nuit grâce aux lunettes de nuit. Si tu ne le fais pas, tu as ces lunettes de nuit, tu as des ennuis. Et c'est donc ce qu'ils disent. Cas option du soleil immobile 44, 3, 3, 5, 2, 54. Quoi qu'il en soit, avec Joshua et cette campagne dans le sud, les Gabaonites de leur tromperie s'habille de ces vieux vêtements et ils apportent de la vieille nourriture moisie. Leurs outresses de vin sont toutes craquelées et ils disent, « Oh, tu sais, nous avons pris ce pain frais du four. Écoute, maintenant, tout est moisi. Nous venons de loin, alors faites un traité avec nous. Josué, fais un traité avec nous. » Il conclut un traité avec eux. Puis il crie, nous avons besoin d'aide maintenant, cette ligue du sud, Jérusalem, Hébron, Lachish, ces autres. Les villes nous attaquent. Josué fait donc marcher ses troupes toute la nuit et au chapitre 10, verset 11, il décrit. Puis le soleil s'est arrêté. Alors qu'il fuyait devant Israël, Israël marche toute la nuit et se lève là-bas et des attaques aidant à protéger Gabaon. Alors qu'il fuyait devant Israël sur la route. Depuis Beth-Horon jusqu'à Azeka, l'Éternel lança sur eux de grosses grêlons du ciel, et plus d'entre eux sont morts à cause des grêlons que n'en ont été tués par les épées des Israélites. Cela a-t-il un sens? Un plus grand nombre d'entre eux furent tués par les des grêlons puis par les épées israélites. Ce jour-là, l'Éternel livra les Amoréens à Israël, Josué dit à l'Éternel, en présence d'Israël, et voici ce qu'il dit. Machine translated by Google. 20. Ô, soleil, reste tranquille devant Gabaon. Ainsi, le soleil s'est arrêté sur un horizon, et la lune sur la vallée des Jalons, qui est l'autre horizon. Alors le soleil reste immobile là-bas. La lune reste immobile là-bas. Ainsi le soleil s'arrêta et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation s'est vengée de ses ennemis, comme il est écrit dans le livre de Jachar. L'un d'entre vous a-t-il lu le livre de Jachar? C'est assigné pour la semaine prochaine. Où est le livre de Jachar? Est-ce que cela fait partie de la Bible? À propos, Josué cite-t-il le livre de Jachar? Cette histoire, si vous voulez une élaboration sur cette histoire, voir le livre de Jachar. Où est le livre de Jachar? Personne ne sait. Le livre de Jachar a été perdu. Au fait, la Bible mentionne-t-elle de nombreux livres du passé qui ont été perdus? Était-ce la Bible, le seul livre qui circule dans le monde antique? Non, ici il mentionne le livre de Jachar qui a disparu depuis longtemps. Personne ne l'a vu au cours des 3000 dernières années. Mais Josué a apparemment enregistré cette histoire à partir de là. Le soleil s'est arrêté au milieu du ciel et a tardé à se coucher. Jour. Il n'y a jamais eu de jour pareil avant ou depuis, un jour où le Seigneur a écouté un homme. C'est une déclaration très intéressante ici. Alors le soleil reste immobile, que est-ce que ça fait? Cette moyenne? Certaines personnes disent que c'est le jour de la disparition de Josué. Il s'agit d'une période de 24 heures. Quand le soleil s'est arrêté. Au fait, je vous le demande, est-ce que le soleil reste immobile ou est-ce que le rotation de la Terre? Le soleil se lève à cause de la rotation de la Terre. Donc, en fait, vous avez. Je dois empêcher la Terre de tourner. Question, est-ce que cela pose des problèmes? Les océans. Irelus. Donc la Terre tourne. Pourriez-vous faire des flexions légères? Pourrait-il faire courber la lumière et donner l'impression que la Terre est immobile? Donc je ne sais pas comment Dieu a fait, mais certaines personnes disent quand même, ils ont mis cela dans un ordinateur et l'ordinateur a constaté qu'il manquait 24 heures. Mon problème? Avec les ordinateurs, connaissez-vous le principe gigot pour les ordinateurs? Déchets à l'intérieur. Déchets. Les ordinateurs vous disent-ils ce que vous mettez? Donc tout ce que je dis c'est d'être. Soyez prudent lorsque vous utilisez des ordinateurs pour prouver la Bible. Au soleil, reste immobile. Prudent sur la solution informatique. Josué veut-il 24 heures supplémentaires pour que ses troupes se battent? Ce que je vais dire, c'est que je pense que ses troupes sont mortes de fatigue. Il demande du soulagement et certaines personnes suggèrent que ce qu'il demande en réalité, c'est le mot pour, c'est que, rester immobile, peut aussi être Machine Translated by Google. 21. Traduit par, réduit au silence. Donc ce qu'il demande, c'est de faire taire le soleil. Ses troupes sont se faire battre par le soleil est intense là-bas, et le soleil tape fort. Et il dit, Seigneur, fais taire le soleil. Au fait, est-ce que les nuages arrivent avec des grêlons, et les nuages font-ils taire le soleil? Alors certaines personnes pensent ce que c'est. L'appel est de faire taire le soleil. Les grêlons quand les nuages viennent en silence chaleur du soleil. Les grêlons emportent les Cananéens et les choses se refroidissent. C'est ce que Josué a demandé. Au fait, le texte dit-il vraiment ici dans la NIV que le soleil se tient debout? Toujours. Donc ça ne rentre pas. Je veux donner à cette chose une possibilité de 20% ou moins. Ou peut-être environ une possibilité de 15%. Il y a un gars nommé John Walton. Il enseigne dans une autre école, je n'aime pas. Pour citer le nom, c'est un endroit qui s'appelle, je crois que ça s'appelle, c'est à Chicago. C'est un endroit appelé Wheaton. John Walton y enseigne. Walton est un homme fou, c'est pour ça que j'aime Lui tellement et il propose les choses les plus intéressantes, les plus fascinantes et les mieux documentées. Des idées créatives. C'est un érudit incroyable et je l'aime bien parce qu'il est créatif et toutes sortes d'autres choses. Quoi qu'il en soit, John Walton examinait de vieux textes de présage babyloniens. Ce n'est pas une blague, des textes de présage babyloniens. Maintenant, que sont textes de présage babyloniens? Les présages, c'est quand vous jetez une malédiction sur quelqu'un ou quelque chose. Comme ça. Les présages sont de mauvais présages. Avez-vous déjà entendu parler de mauvais présages et de bons? Des présages. En fait, vous êtes dans les environs de Salem, donc vous êtes probablement au courant de cela mauvais. Présages et bons présages. Ce qu'il suggère, c'est que ce qui se passe avec Joshua est que Dieu a mis le soleil ici sur un horizon, la lune sur l'autre pour que les Cananéens verraient cela et réaliseraient que c'est un mauvais présage. C'est une très mauvaise journée pour Lutte. Les Cananéens paniqueraient à cause de la position du soleil et de la lune et ils on lirait que les dieux avaient parlé contre eux et qu'ils sont frits. Parce que les dieux disent que c'est de mauvais augure contre eux. Sa vision est basée sur ces textes de présage. Donc ce que dit Josué, c'est de mettre le soleil ici et la lune là. Donnez-leur un mauvais présage pour qu'ils courent et que nos gars soient soulagés. En d'autres termes, nos gars n'auront pas à sortir et à se battre. Alors Dieu les fait sortir avec le grêlon. Est-ce que ça a du sens? Cela pourrait éventuellement être un présage, dit-il, le soleil. Machine translated by Google. 22. Sur Gabaon, la lune sur Éjalon et il présente cela comme un mauvais présage. J'aime vraiment cette suggestion, cela semble à moitié fou et c'est probablement le cas, mais moi aussi. Alors je veux juste essayez-le. Je ne dis pas que c'est comme ça, je dis que je suis probablement. Je vais y aller avec le soleil, je suis resté immobile. Mais j'aime ça parce que ça explique tellement de choses. À propos de ces troupes fatiguées et demandant du secours. Alors pouvons-nous lui donner 5 à 10%? Je pense que c'est une interprétation intéressante. Je pense que c'est possible que ce soit basé sur ça. D'anciens textes de présage et il a peut-être raison. Anna. Non. Je dis ce premier, c'est un standard, la plupart. Les gens tiennent. C'est 80%. Et je veux faire celui-ci à environ 15%. Je veux faire celui-ci. Environ 10%. Que est-ce que je viens de faire, 80, 20, 15, ça ne compte pas, ça fait plus que 100, je ne fais que plaisanter avec toi. Mais c'est juste que ce que j'essaie de dire, c'est que celui-là est probablement la norme, et celle-ci est probablement improbable, mais je pense juste que c'est fascinant. Parce que ça explique les choses. Pour être honnête, ça explique des choses que je n'ai jamais pu expliquer. Expliquer avant et c'est pourquoi j'aime sa suggestion. Elle pouvoir de la prière 52, 5554, 08. Regarde ça. Chapitre 10, 14, le soleil s'est arrêté au milieu du ciel et j'ai retardé la descente d'une journée entière. Il n'y a jamais eu un jour comme ça, que est-ce que c'est unique à propos de cette journée. Il n'y a jamais eu un jour comme celui-ci avant ou depuis. Que est-ce que si unique à propos de cette journée? Un jour où le Seigneur a écouté un homme. Josué a-t-il prié? Et Dieu a-t-il disposé les cieux selon la prière de Josué? C'est incroyable et ce que j'essaie de dire, c'est, que nous dit ce verset. La prière est-elle importante? Fait. La prière change-t-elle les choses? La prière fait-elle une différence? Il dit que cette journée a été comme non. Autre jour. Dieu a écouté la voix d'un homme et a fixé les cieux selon la demande de Josué. Nous approchons du jour de prière, la prière est-elle importante? Oui. Toi. Peut s'adresser à Dieu Tout-Puissant, Dieu écoute. Il a écouté la voix d'un homme. C'est incroyable. Comme je l'ai dit, j'ai 4 enfants. Mes enfants ne m'écoutent pas. Dieu écoute. Moi, et c'est incroyable. C'est donc une chose à laquelle il faut réfléchir. C'est un grand passage. Monsieur Livre de Jachar 54, 0954, 47. Et maintenant, qu'en est-il du livre de Jachar? Cela se trouve dans Josué 10, 13, le livre de Jachar. J'essaie juste de dire qu'il y avait d'autres livres dans le monde antique qui étaient Machine Translated by Google. 23. Courir partout, d'autres documents historiques. Josué cite apparemment le livre de Jachar sur le disque du soleil immobile. Il dit, allez voir la note de bas de page ici, à ce sujet. Livre de Jachar. Le livre a été perdu, ce n'est pas un livre inspiré, mais raconte-t-il le vérité? Apparemment, Joshua a dit que ce livre disait la vérité sur la façon dont la bataille s'est déroulée. Est tombée. Mais tous les livres qui disent la vérité sont-ils inspirés par Dieu? Pas nécessairement. Joshua cite simplement ce livre et je pense qu'il est intéressant. Campagne du Nord, Jebin, roi de Retsa 54, 4857, 47. Maintenant, la campagne du Nord, nous avons vu la campagne du Sud, maintenant il y a. Ce sera une campagne dans le Nord. Ils ont vaincu les 5 rois du Sud et maintenant. Ils vont aller vers le Nord et ils vont tomber sur ce type, Jebin Kinwof. Reze. Ils vont vaincre Jebin. Vous allez voir quelques Jebin. Il y a comme Jebin 1, Jebin 2, Jebin 3 et Jebin 4. Il y a probablement 20 Jebin d'affilée à Reze et dans le livre des juges, vous allez voir un autre Jebin, roi de Reze. Voici une carte et je vais juste tracer un cercle autour de Reze. Au fait, que est-ce que c'est? Mer de Galilée. Quelqu'un peut y voir, est-ce que ça ressemble à une petite harpe? Est-ce que ça ressemble à un harpère un peu? En fait, il l'appelle le lac Kinneret. Kinneret en hébreu signifie harpe. Alors il l'appelle en fait lac Kinneret harpe. Elle devint plus tard connue sous le nom de mer de Galilée ou la mer de Tibériade. Tibériade, c'est un nom romain. Mauvais. Ok, qui accroche. Au bord de la mer de Galilée. Si vous êtes dans la Bible et que vous ne savez pas quelle est la réponse. Quel nom donnes-tu? Jésus. Alors rappelez-vous, Jésus pêche dans la mer de Galilée, tempête dans la mer de Galilée, nourrissant les gens au bord de la mer de Galilée. Le sermon sur la montagne se déroule au bord de la mer de Galilée, probablement ici même. Alors Jésus est à la mer de Galilée. Maintenant, Reze est un peu, je ne sais pas, à 5 ou 6 miles d'ici. Reze est le plus grand site archéologique de tout Israël. Cela fait environ 250 acres, je pense. Est-ce que c'est beaucoup de terrain, 250 acres? C'est gros. Je veux dire, selon les normes américaines, ce n'est pas grand. Nous avons. J'ai ces fermes fruitières de 1000 acres maintenant et des choses comme ça, mais 250 acres pour une ville. Comme ça, dans le monde antique, c'est énorme. Quelle était la taille de Jéricho? J'ai dit d'ici à. Voici c'est à 400 mètres. Jéricho, vous marchez 7 fois. Reze, 250 acres. C'est beaucoup. Beaucoup plus grand que Jéricho, environ 11 acres. Ils vont donc avoir des chars de fer ici. Le gars de Reze, Jebin, prend son char et vient ici et où vont-ils? Machine translated by Google.
24. Combatra. ILS Vont SE Batra ICI. ILYA un immense volley overt OULE.
Les chars fonctionneront bien. Cette vallée s'appelle la vallée de Armigido. La vallée de Ar signifie colline de Migido. La vallée de Armigido, tu dis ça très vite dans anglaise et vous obtenez la vallée d'Armageddon, Armigiddo, la vallée de Armageddon. C'est ici qu'Armageddon se trouve. Maintenant, nous allons regarder cela plus en détail. De près plus tard. C'est la vallée d'Armageddon. Migiddo est ici. C'est donc là qu'ils descendent pour se battre. Joshua monte, et ce qu'il gagne. Joshua gagne toujours, enfin pas toujours. Mais il les vince. Il monte à Retz, il incendie la ville, Josué fait tomber Retz. Retz est la grande ville du nord. Aux deux problèmes, défaite de les 57, 4, 8, 5, 9, 17. Alors ils ont fait le sud, ils ont fait le nord, et maintenant quoi? Tu en as deux. Problème? Joshua va être confronté à deux problèmes. Ce sont des problèmes importants. Il est. Je vais aller à E. Et la petite ville, Joshua va être ici près du. Région de Gilgal-Jéricho, au fond du canyon ici. Et va être localisé. Juste là. Il va monter, combattre, mais que se passe-t-il? Il envoie ses espions. Là-haut et les espions disent, la ville d'Aï, ils n'ont que 200 à 300 hommes là-haut, 7. Ce n'est pas grave. N'emmène pas toute l'armée d'Israël là-haut, Josué, envoyant juste quelques-uns. 1000 hommes et nous ferons exploser et... Ce n'est pas un problème, il n'y a que 200 à 300 hommes. Là. Donnez-nous 2000 hommes et nous y irons doucement. Avez-vous vu l'arrogance là-bas? Qui gagne la bataille? Nous gagnons la bataille, nous sommes assez bons, nous avons ceci sous contrôle. Ils envoient leurs 2000 à 3000 hommes à et devinez ce qui se passe. Ils souffrent. Leur première défaite. L'un de vous athées il fait du sport. Vous entrez dans votre saison et vous. Tu as ta première défaite. La première défaite est elle meurtrière. Cela coupe simplement le vent à l'équipe. Tu sais que tu es excité, tu vas y aller et les faire exploser et... Puis vous faites votre première défaite, c'est dévastateur. Donc de toute façon, ils montent, ils obtiennent leur premier. Perte des, une petite ville qui les vince. Et est si petite, quand tu vas à Etu. Je peux à peu près jeter une pierre dessus, c'est si petit. Je veux dire, je parle du quat. Je parle moins que le quat. C'est une petite, petite, très petite ville, même si nous sommes. Je ne sais pas exactement où il se trouve. Il y a un grand débat sur son emplacement exact. Machine translated by Google. 25. Le péché de PH 59, 1, 8, 6, 14. Quel était le problème? Achan a péché. Achan a péché et il y avait du péché dans. Quand? Vous souvenez-vous d'Achan? Il est allé à Jéricho et il a volé de l'or et il a volé un vêtement bébaylonien, une robe bébaylonienne. Une robe bébaylonienne et de l'or, et il fait quoi? Il l'a emmené dans sa tente et que a-t-il il fait? Il l'a enterré sous sa tente et cache-le. Que devait-il arriver à tout ce qui venait de Jéricho? Tout ce qui venait de Jéricho était ici, il devait être consacré au Seigneur. Tout cela devait être brûlé pour le Seigneur. Les richesses de Jéricho, l'or et l'argent, devaient être versées dans les trésors du Seigneur. Jéricho était la première ville d'Israël. C'était leur première victoire dans le pays et Dieu dit. De ta première victoire, je reçois tout le butin. La première victoire a été Jéricho, c'est. Pourquoi Jéricho était si spécial? C'était la première victoire dans la terre promise et Dieu dit. Jéricho est à moi, tout vient à moi. Achan a volé une partie des biens et ainsi. Il y a du péché dans le camp. Dieu sait qu'il y a du péché là-bas. Il monte pour combattre. Dieu dit que je ne suis plus avec toi, tu es seul. Donc tu perds. Maintenant remarquez. Ils ont tiré au sort pour savoir qui a fait cela. Ils reviennent et disent, mon Dieu, que est-ce qui se passe? Ici. Le commentaire de Joshua est très intéressant. Laisse-moi juste travailler sur ce truc avec Achan. Il tire au sort et le sort tombe dessus. À quand ? Achan dit, d'accord, j'ai volé la robe, j'ai volé l'or et j'ai péché. Il tue. Achan, mais il tue aussi la famille d'Achan. Encore une fois, en tant qu'Américains, nous faisons tout comme. Personne. Nous sommes des individus et tout est fait individuellement. Certaines personnes essaient. Pour atténuer cela, pourquoi la famille a été tuée en disant qu'elle savait qu'il avait enterré ses objets volés dans le sol? La famille était donc en partie responsable. Parce qu'ils ne l'ont dit à personne. Ces autres gars sont montés et ont été tués pour ça. La famille était donc en partie coupable car elle savait ce que leur père avait fait. Cela en fait partie. Une autre façon d'envisager les choses est à travers le prisme de la personnalité de l'entreprise. Dans la culture américaine, tout le monde est individualisé. Je le fais, tout est moi et centré sur moi-même. Dans d'autres cultures, c'est une culture très « nous ». Vous regardez les unités, dans d'autres cultures ce sont. Et non des individus, les unités dans d'autres cultures sont des groupes familiaux, des clans ou des tribus. Alors ceci est appelé « personnalité morale ». Il y a une sorte de caractère corporatif là-dedans. C'est très étranger. Machine translated by Google. 26. À notre façon de penser en tant qu'Américain, mais c'est très important si vous voulez comprendre d'autres cultures qui se considèrent comme un groupe. C'est peut-être ce qui se passe ici. Juste en parlant d'Achan qui se fait défoncer et de la famille, cela aide de voir la famille comme un unité. Cela ne veut pas dire, remarquez ce que je dis, c'est qu'il y a une relation entre l'individualité et l'esprit d'entreprise. Ce que je veux faire, c'est en quelque sorte reculer devant l'individualité. Et dire qu'il y a une entreprise impliquée dans tout cela. Maintenant, ça ne veut pas dire à chaque fois. Et dans chaque situation, c'est toujours une entreprise. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas toujours le cas d'une manière ou d'une autre, mais en tant qu'Américain, nous avons même la notion d'entreprise. C'est avec cela que j'essaie de travailler. Même si, en tant qu'Américain, nous avons la notion de l'esprit d'entreprise. Les Américains ont-ils combattu les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale? Et donc, nous étiquetons cela comme une sorte de chose de groupe. Il s'agit donc d'individu versus entreprise. C'est. Je ne dis pas que c'est toujours dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut travailler entre les deux. Je pense que l'un des autres problèmes lorsqu'ils se sont opposés a été cette notion de accoutumance. Ils pensaient que Dieu était de leur côté et qu'il était prévisible. Dieu est toujours à nos côtés. Nous sommes le peuple juif. Nous sommes le peuple élu. Dieu est toujours à nos côtés. Il est toujours contre les Cananéens. Dieu devient donc prévisible. C'est devenu un véritable problème. Plutôt que de réaliser que chaque situation est une choix individuel et confiant ainsi chaque choix individuel à Dieu, ils ont plutôt dit « Oh, ouais, bien sûr. C'est l'hypothèse que Dieu est avec nous. As-tu déjà été dans les églises qui ont cette conception que Dieu est avec nous dans cette église? Ils ont toujours supposé que Dieu est avec eux et opposé aux autres. Je pense que tu dois être vraiment. Faites attention à cette hypothèse selon laquelle Dieu est avec nous. En utilisant cela dans ce cas, ils sont montés. Lutter contre Haï et Dieu n'était pas avec eux. Pourquoi n'était-il pas avec eux? Parce que ils avaient du péché dans le camp. Ils avaient du péché dans le camp et donc Dieu dit, non. Ce qui est intéressant, c'est que les gens péchaient ensuite Josué blâme Dieu. Josué dit « Ô Dieu, pourquoi avons-nous traversé le Jourdain? J'aurais aimé que nous ne soyons pas venus de l'autre côté du Jourdain. Au fait, qui a dit quelque chose comme ça? J'aurais aimé que nous ne le fassions pas. Nous traversons le Jourdain et nous restons de l'autre côté. N'est-ce pas exactement ce Les Israélites ont dit quand ils sont sortis d'Égypte. Nous voulons retourner en Égypte ou. Machine translated by Google. 27. Il y avait des poireaux, des melons, de la nourriture et de l'eau. Josué verbalise la même chose et le. Le problème est le suivant, le péché d'une seule personne affecte-t-il la communauté entière? Avez-vous déjà vu cela se produire? Permettez-moi d'utiliser une illustration d'un pasteur. J'ai eu un ami pasteur qui était en fait l'un de mes étudiants. Je lui ai enseigné le livre des psaumes. Et il était mon pasteur des années plus tard. C'était vraiment un gars formidable. Il a eu 5 enfants. Il s'est retrouvé dans une situation compromettante et a commis des actes immoraux avec quelqu'un dans l'église. Et ce un problème. Alors maintenant, il est pris avec ses autres femmes, il a 5 enfants et une femme. Et ce que cela a affecté toute l'église. Donc ce que je dis c'est. Le péché affecte-t-il l'entreprise? Ici, Achan a commis le péché et cela a affecté le groupe corporatif. Le péché d'une personne affecte les autres. Alors, est-ce juste le péché des Achan? Tu dois être conscient de cela. Comment devrais-je dire, nous ne sommes pas seulement des billes individuelles qui traversent la vie. Nous sommes connectés les uns aux autres et le péché d'une personne affecte et impacte le groupe. Les péchés de vos parents vous affectent-ils? Vos péchés ont-ils affecté vos parents? Donc, il y a cette relation de va-et-vient entre l'individu et la communauté et nous l'obtenons encore aujourd'hui. Cutron prix de la Gabaonite 66, 1, 5, 6, 8, 25. Maintenant, il y a la tromperie des Gabaonites. Voici la deuxième situation qui était une problème. Et était l'un des gros problèmes. Le deuxième était le problème de la situation. Avec Gabaon. Gabaon avait cette ruse selon laquelle il venait de très loin. Il portait du vieux vêtements, ils portaient des sandales usées, toute leur nourriture était moisie. Ils sont venus à Israël et ils ont dit que nous voulions conclure un traité avec vous. Israël pensait qu'ils venaient de très loin, alors qu'en réalité ils venaient d'où? Ils étaient morts centre au milieu d'Israël. Voilà donc ce que j'en retire. Faites attention aux évidences. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de demander à Dieu parce que la réponse est si évidente que vous n'êtes pas obligé de la demander. Puis chapitre 9 verset 14 voici ce qu'il dit, c'est un commentaire intéressant. Les hommes de Israël a goûté à ses provisions mais n'a pas consulté l'Éternel. Ils ont échantillonné leurs provisions et virent qu'elles étaient toutes moisies et vieilles mais ils ne s'enquirent pas du Seigneur. En ne s'informant pas du Seigneur, ils ont commis une grave erreur. Ils ont fait un traité avec les Gabaonites. Ils n'ont pas interrogé Dieu à ce sujet. Quelque chose qui semblait tellement. Machine translated by Google. 28. Cela s'est avéré être un très gros problème pour eux. Alors ce que je dis, c'est toi. Il faut faire confiance à Dieu dans le caractère unique de chaque instant et dans chaque décision. Avez-vous l'un des? Vous avez pris des décisions qui allaient être un désastre total et elles se sont avérées être l'une des meilleures choses qui vous soient arrivées. Avez-vous déjà pris une décision? Où vous pensiez que ce qu'il fallait faire était évident et quand vous vous êtes retrouvé dans la situation, c'est avéré vraiment terrible. Ce que je dis, c'est que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous? Je ne sais pas quand quelque chose qui a l'air si beau peut s'avérer être la chose la plus moche dans le monde. Quelque chose qui semble terrible peut s'avérer bien. Nous dépendons Dieu parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Chaque décision doit être formulée ainsi. Les Gabaonites ont conclu un traité avec Israël. Israël en fit des bûcherons et porteurs d'eau. Alors ils ont dit, d'accord, nous avons fait une erreur ici, mais vous devez le faire. Sers-nous maintenant. Ainsi, les Gabaonites furent adoptés en Israël comme bûcherons et arroseurs. Porteurs Ils devinrent en quelque sorte des serviteurs d'Israël, coupant leurs bois et portant leurs eaux. R. Division du territoire 68-2673-07. Maintenant, il nous reste environ 12 minutes et nous devons faire ce terrain. Division. Je vais juste aborder cela rapidement. Et il y a quatre tribus que je veux que vous connaissiez. Là. Sont six villes que vous voulez connaître. Au fait, où trouve-t-on ces cartes? Ces cartes sont toutes sur les PowerPoint. Téléchargez-les. Ce sont donc essentiellement quatre tribus et six villes et ensuite je veux juste les parcourir. Tout d'abord, est-ce que vous voir la mer morte, la mer salée? Tracez une ligne depuis le sommet de la mer morte. Quelle ville frappez-vous ici, juste en face du sommet? Jérusalem. D'accord, c'est. Comment vous pouvez imaginer Jérusalem? Quelle tribu se trouve au nord de Jérusalem? Benjamin. Pourquoi est-ce? Benjamin est important. Qui va venir de Benjamin? Le roi Saül. Le premier roi d'Israël et de Benjamin. Jérusalem se trouve donc juste à la frontière, juste à l'ouest du sommet de la mer morte. Benjamin est au nord. Cette tribu est Benjamin. Quelle tribu se trouve au sud? Juda. Pourquoi Juda? Important. Qui vient de Juda? David. Donc David vient d'ici, Saül vient d'en haut. Ici à Benjamin. Alors, quelle est la relation entre Juda et Benjamin? Juda est dans le au sud, Benjamin est assis juste au-dessus. Jérusalem est à la frontière entre les deux. Machine translated by Google. 29. Nord et sud. Permettez-moi de passer à une autre carte ici. Il y a Jéricho, en ce qui concerne les villes. Allez voir Jéricho au nord de la mer morte juste un petit peu. Une autre ville est Gabaon. Voyez-vous Gabaon juste au nord de Jérusalem, un peu à l'ouest? Donc tu as Jéricho et Gabaon. Gabaon est une ville des Gabaonites. Et puis enfin, Jérusalem est. Jérusalem est par ici. Je veux juste que tu t'habitues à ces grandes villes d'Israël. Jérusalem, Jéricho, Gabaon, ce sont des villes majeures. Vous connaissez aussi ces deux tribus, les régions sont Juda et Benjamin. Voici la tribu de Juda. Voyez-vous la mer morte? Ici et où est Juda? Juda est juste à côté de la mer morte. Cela correspond donc aux mers mortes à l'est. C'est la tribu de Juda à l'ouest de la mer morte. Au nord, c'est ici que Jérusalem se trouve juste en face de la tête du la mer morte à environ 20 miles environ. Qui atteint au sud de Jérusalem? La ville de Bethléem. Bethléem, Beth signifie, maison de, Lehem signifie, pain, maison du pain, Bethléem. Qui vient de Bethléem? Ne me donne pas Jésus cette fois. Qui vient de Bethléem? David. La ville natale de David est à Bethléem. Jésus naîtra à Bethléem. Selon Michée 5.2. David est de Bethléem. David prendra Jérusalem, en le chemin. Alors Hébron est ici. C'est la reine du sud. C'est comme Atlanta. Hébron est comme Atlanta, la reine du sud. Hébron était le lieu où Abraham a enterré Sarah. Rappelez-vous tout cela avec Abraham qui est à Hébron. Ensuite, il ne reste plus qu'une ville et je pense que nous l'avons encerclée et c'est
Beersheba, son comme Beersheba. Beersheba est ici. C'a dit Beer. Est c'est quelqu'un.
Avez-vous déjà entendu dire que cela s'appelait Beersheba? Beersheba, c'était quand j'étais plus jeune, c'est comme ça. A été prononcé. Beersheba. Bier signifie, puis de, Shiva signifie, sept. Donc ça veut dire. Sept puis. Beersheba est donc la frontière sud d'Israël. Donc cette ville ici est le point le plus méridional d'Israël. Beersheba est au sud dans le Negev. Au fait, voyez-vous que ceci s'aligne sur un itinéraire. C'est une voie majeure qui traverse le nord et le sud. Il y a là une route de crête majeure. Et donc il y a Jérusalem, Bethléem, jusqu'à Hébron, et ici il y a une route qui court comme route Anna à Wenum. Ainsi donc, au nord de Benjamin se trouve la tribu d'Éphraïm. Éphraïm est comme joue dedans. Machine translated by Google. 30. Le sud. Éphraïm est au nord. C'est la tribu principale. C'est le schéma que vous. J'ai probablement besoin d'apprendre, d'accord. Juda est au bord de la mer morte, Benjamin est au sommet. Juda, Éphraïm est au-dessus de Benjamin. Cela a-t-il du sens? Maintenant, où est la tribu de Dan? Dan est ici, mais qui est ici le long du côte? Philistins? Que font les Philistins aux Juifs? Tu les. Alors Dan a déménagé au. Au nord, le point le plus au nord. La tribu de Dan qui était ici s'effondre. La tribu s'effondre en une seule ville. Cela devient la ville la plus au nord. La tribu de Dan se déplace vers le nord parce qu'ils ne veulent pas se faire battre par les Philistins. Guerre 73, 0876, 12. Maintenant, nous allons parler de cela. Cette prochaine discussion aura à voir avec la guerre. Il faut que cela aille vite. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être discutées pendant des jours avec Samé. Nous avons parlé de la guerre sainte ou du Rerem. Erim, signifiant, consacré au Seigneur, détruit, brûlé au Seigneur, dédié au Seigneur. C'est ce qui se passe. Le Rerem, la destruction, les hommes et les femmes, les enfants. Et les animaux, c'est ce qui s'est passé à Jéricho. Il a été demandé aux Israélites de leur donner une chance de paix. Ils devaient venir en ville et dire, vous pouvez vous soumettre à nous, et nous ne vous détruira pas. Vous avez la paix. Au fond, la question s'adresse à beaucoup de gens, et c'est vraiment une chose difficile, comment Dieu peut-il détruire ces villes alors que des hommes, des femmes et les enfants, même les animaux sont tués. Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses à tout. L'un des principes est que Dieu juge le pays de Canaan. Depuis 400 ans, Dieu dit qu'il a laissé l'iniquité des Amoréens continuer à se multiplier et Dieu les a épargnés pour 400 ans. Après ces 400 ans, Dieu envoie Israël pour les détruire. Alors Israël devient un instrument de Dieu pour détruire cette culture parce que cette culture était tellement méchant. Dieu dit que c'est un jugement. En d'autres termes, Israël va là-bas, détruisant cette culture comme un jugement sur les Amoréens à cause de leurs péchés. C'est donc le numéro un. Il ne s'agit pas seulement d'Israël qui mène une guerre contre quelqu'un. Non, c'est Israël qui exécute le plan de Dieu. Jugement sur eux. Le deuxième point qui revient ici concerne les conséquences de les laisser dans la terre. Si Israël laissait les Cananéens dans le pays, les Cananéens feraient quoi aux Israélites? Il les amènerait à adorer leur dieu païen. C'est en fait ce que Machine Translated by Google. 31. Arrivé. Israël ne les a pas tout détruits dans le pays, ni certains de ces Cananéens. Les gens enseignèrent alors à Israël leur idolâtrie pour laquelle Israël serait jugé plus tard. Donc, Dieu a dit, éliminez-les parce que je ne veux pas qu'ils vous contaminent. Je vous enseigne l'idolâtrie. Israël ne l'a pas fait, c'est donc un problème. C'est donc la deuxième raison d'une extermination totale, afin qu'aucun d'entre eux n'enseigne à Israël leur Dieu. D'ailleurs, en fin de compte, cela se résume à ceci. Qui a la prérogative de la vie et la mort? Je sors et tombe mort sur le devant de la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Dieu a droit à la vie et à la mort et il faut juste l'admettre à un moment donné. Vous devez simplement prendre du recul. Nous, les humains, n'avons pas cet appel. Ce rerem était rarement pratiqué. Cela était pratiqué à Jéricho, à Iérèse. Peut-être dans un ou deux autres endroits, mais cela était rarement pratiqué en Israël. Alors tu dois. Sois prudent. Maintenant, certaines personnes pensent que le rerem était pratiqué, Israël remed. Tout est tout détruit. Non, en fait, il n'y avait que trois endroits en réalité et il faut donc faire attention à ne pas trop l'agrandir. Tes trois vues de la guerre, non-résistance 76-1381-07. Maintenant, je veux frapper ensuite, la guerre, à quoi ça sert? Je veux parler de quand? Pensez-vous un jour que la guerre est légitime? La guerre est-elle jamais légitime? Quelle serait? Es-tu prêt à mourir pour? Puis une autre question, pourquoi seriez-vous prêt à tuer? Seriez-vous réellement prêt à tuer quelqu'un? Sur quelle base tueriez-vous quelqu'un et comment? Est-ce que tu ressens la guerre? Les universitaires peuvent-ils trancher ces questions? Habituellement en milieu universitaire. Est-ce que ce sont des gens qui approuvent ou désapprouvent la guerre? Ils prônent généralement la paix. Les universitaires sont-ils généralement capitalistes ou socialistes? L'université où je suis allé était majoritairement socialiste. Donc ce que je dis, c'est que je pense que ces choses sont très compliquées. Permettez-moi de répondre rapidement à ces questions. Jésus a dit quoi? Quelle est la non-résistance? Position. La position de non-résistance dit essentiellement ceci, vous entrez dans l'armée en tant que médecin ou aumônier. Je ne prendrai pas une arme pour blesser quelqu'un mais j'interviendrai en tant que médecin ou aumônier pour guérir. Alors ils rejoignent l'armée en tant que médecin ou aumônier. Basé sur ceci. Déclaration Jésus a dit de tendre l'autre joue. Si quelqu'un vous gifle sur une joue, tournez-le. Autre. Peter a ramassé l'épée et que s'est-il passé? Il a coupé l'oreille de ce type. Machine translated by Google.
32. Tué de Jesus? Jesus a-t-il reprimandé Pierre pour avoir érigé le rail de ce type? D'ailleurs.
Que est-ce que Jésus a fait à l'oreille de ce type? Il l'a remis. Jésus a dit de faire quoi? Détester vos ennemis ou aimer vos ennemis. Déclaration très intéressante Sarah. Aimez votre voisin. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, allez-vous tuer votre voisin? Alors, comment travaillez-vous avec cela? Il y a des versets qui soutiennent ce genre de approche utilisant la séparation de l'Église et de l'État. Jésus a dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se battraient. Quelle est l'implication de cette déclaration? Mon royaume, est-il de ce monde? Non, ce n'est pas. Alors mes serviteurs ne se battront pas. Un grand nombre d'eux. Les premiers chrétiens sont morts sans se défendre contre l'Empire romain. Donc, Jésus a dit ce genre de choses. Le Christ meurt et c'est un exemple pour les autres. Il ne se défend pas. Il meurt sans se défendre. C'est la position de non-résistance maintenant, ce que je veux faire c'est vous montrer le de l'autre côté, et ensuite nous y mettrons un terme. Dualisme. Pouvons-nous dire que nous sommes du royaume de Dieu? Et nous ne sommes pas du royaume de ce monde. La plupart d'entre nous vivent dans ce monde. Et ce que nous mangeons? Faisons-nous autre chose dans ce monde? Alors, avons-nous la double nationalité? Est-ce que j'ai responsabilité envers l'Amérique? Et je des responsabilités envers l'Amérique? En plus d'être un chrétien, suis-je aussi américain? Quelles sont mes responsabilités en tant qu'américain? Voici un autre passage que Jésus a dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu. Apporte l'épée. » Jésus a dit dans Luc chapitre 22, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Que voulait dire Jésus là? Jésus voulait-il dire que nous devrions prendre l'épée et le poursuivre? Non, ce passage a été sorti de son contexte. Jésus a dit, « Je n'ai pas venu apporter la paix, mais l'épée. » En d'autres termes, l'épée va-t-elle être utilisée contre vous, disciples? Ce n'était pas que les disciples devaient utiliser l'épée, mais l'épée être utilisée sur eux. La plupart des disciples sont-ils morts de mort violente? Alors Jésus, quand il dit que « Et si vous voyiez quelqu'un se faire violer, seriez-vous réellement physiquement blessé la personne qui l'a violé? Maintenant, tu fais violence à cette personne. Mais la personne leur fait violence. Et ce que vous restez là et dites, « Monsieur, je suis un objecteur de conscience et je ne veux pas vous blesser. Je vais parler de toi à la police pour que tu... Mieux vaut faire ça vite. Ou tu irais te jeter sur lui et éteindre ses lumières. Donc, ce que je dis, c'est que lorsqu'un pays fait quelque chose à un autre, que est ce qui Machine translated by Google. 33. Ce serait-il produit si l'Amérique ne s'était pas impliquée contre Hitler? Est-il possible qu'Hitler gouvernerait toute l'Europe à présent? Alors quel type de guerre la non-résistance auxquelles nous sommes confrontés, et quelles sont certaines de ces questions? Nous n'avons pas parlé de pacifistes, ni de guerre juste. Nous ferions mieux sort d'ici. D'accord, allons Y. On se voit jeudi. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans son Ancien Testament, Histoire, Littérature et Cours de Théologie. Conférence numéro 19 sur le livre de Josué, les murs de Jéricho, le problème Haï, et le traité conclu avec les Gabaonites ainsi que le concept de guerre. Et ici dans le livre de Josué. Transcrit par Anna Jang. Brut édité par Ted Hildebrandt II.